Il est délicat de contester une fermeture d'usines et des licenciements massifs et brutaux quand les gouvernements libéraux successifs ont concocté une boîte à outils livrée à l'usage peu scrupuleux du patronat. Gouvernement dont certains représentants sont d'ailleurs venus jouer les pompiers pyromanes devant les portes de l'usine. Difficile aussi de prendre place dans l'arène médiatique entre des élus ou des ministres en campagne qui monopolisent les caméras et les psychodrames familiaux qui confinent la parole des travailleuses et travailleurs dans la sphère privée, comme si ils et elles n'étaient pas capables de construire un discours politique. Oser enfin de tenter de taper du poing sur la table des négociations et d'aller à l'encontre des discussions entre la direction et l'intersyndicale. C'est pourtant le pari d'une quarantaine de salariés qui ont créé une association, les Affranchis de Bridgestone, une semaine après la confirmation de la fermeture du site de Béthune. Association qui a engagé l'avocat Fiodor Rylov pour entamer deux procédures judiciaires contre le groupe Bridgestone et ses filiales françaises et belges.
Ça s'est fait suite à plusieurs événements en fait. Déjà, le premier c'est que...
Ronald, salarié Bridgestone, l'un des fondateurs de l'association Les Affranchis de Bridgestone.
Les syndicats, l'avocat de l'intersyndicale ont purement accepté la fermeture de l'usine dès le départ. Ils ont signé un accord de méthode deux jours après l'annonce de la fermeture. Déjà ça, c'est pas passé pour nous, quoi. Donc peut-être une stratégie de leur part, mais pas la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès le départ, ils nous ont dit qu'ils allaient être transparents avec l'ensemble des salariés. Ça n'a pas du tout été le cas.
Tu parles de l'intersyndicale ?
L'intersyndicale, ouais. Ça n'a pas du tout été le cas. On était plutôt dans l'attente de réponse. En fait, personne ne savait. Mais on nous demandait de continuer à travailler, ce que les gens ont fait, et ça, je respecte. Donc ça, c'est un deuxième point, en fait. C'était l'attente, le manque de communication, le manque de transparence. Il y a eu un petit mouvement de cohésion, plusieurs salariés qui se sont retrouvés avec les mêmes idées et on a décidé de le faire parce qu'on pensait que c'était juste, parce qu'on ne voit pas d'évolution favorable sans rapport de force. Quoi, en fait. Aujourd'hui, les syndicats ils se sont assis à la table des négociations, un peu trop facilement à notre goût. Alors on ne s'y oppose pas, on ne s'oppose pas à l'intersyndicale, seulement nous on pense que il manque cette part de contestation, surtout parce que bon, voilà, c'est Bridgestone France qui veut fermer son usine, mais la décision, elle vient pas de Bridgestone France. Notre directeur, c'est un pion, quoi. C'est juste un pion sur l'échiquier, les RH, c'est pareil. Enfin, pas tout l'ensemble des RH, mais le directeur des ressources humaines, c'est pareil. On cherche aussi des responsables, les vrais responsables. On cherche à accuser par notre procédure la multinationale d'avoir pris la décision de fermer Bridgestone France.
Mais l'idée, c'est d'aller s'attaquer donc à la multinationale, en fait, Bridgestone. Oui. Et du coup, ça renforce l'idée que c'est un peu un combat de David contre Goliath aussi.
Aussi, ouais. Mais c'est aussi un combat pour l'honneur. C'est aussi un combat d'idéologie, je pense, pour Bridgestone et pour tous les autres salariés des autres usines qui sont concernées par des PSE, qui ne vivent pas la même chose que nous, parce que chez nous, c'est inédit. Je pensais jamais en arriver là. Je pense qu'aujourd'hui, les syndicats auraient dû être présents. Il n'y en a aucun. En tous les cas, aujourd'hui, moi, je vais mener un combat avec les gens qui ont envie de se battre.
C'est vrai qu'on peut, avoir l'impression, la manière dont ça s'est déroulé depuis le début, que la condamnation a été vite acceptée.
Elle a été vite acceptée, trop vite. Tout à fait, ouais, moi je l'ai vécu comme ça. Je ne voyais pas le rapport de force on était plus dans le fatalisme et dans... Non.
Alors c'est quoi maintenant le but pour les Affranchis de Bridgestone?
Les Affranchis de Bridgestone, ils vont mener leur chemin. On va aller en judiciaire avec Maître Rylov. Je pense que c'est un avocat qui n'a plus à faire ses preuves. C'est clair que ça va pas être facile, c'est clair qu'on va pas gagner. Mais au moins on partira la tête haute. Si on va au bout, si on gagne, ça pourra servir d'exemple.
Et gagner, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'usine puisse survivre, ou c'est faire en sorte d'avoir plus en termes de primes?
La première chose, c'est d'empêcher la fermeture de l'usine, oui. Alors, avec les lois Macron, ça va être très difficile, parce que Bridgestone peut fermer son usine pour cessation d'activité sans... Je veux dire, c'est un motif légitime de fermeture d'usine. Cessation d'activité, c'est tout, ça suffit.
Et tu penses que la démarche là actuellement des affranchis, ça peut aussi servir d'exemple à d'autres, hein, parce qu'il y en a plein, des usines qui ferment, pour un rapport de force plus offensif.
Ouais, tout à fait, ce qu'on espère, et je pense que s'il y a des syndicats ici qui sont là, je pense qu'ils espèrent comme moi une convergence des luttes, parce qu'en fait c'est tous la même, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein.
Moi je suis venu ici pour exposer aux salariés de Bridgestone, membres de l'association Les Affranchis de Bridgestone, ou non membres, ou futurs membres.
Fyodor Rylov, avocat des Affranchis.
Les actions en justice que nous avons déclenchées ce matin. Mais avant toute chose, je voudrais quand même dissiper une rumeur, en tout cas un certain nombre de commentaires qui sont faits sur ce qui adviendrait aux salariés qui participeraient à ces actions en justice. J'ai encore entendu, là, il y a quelques secondes, que faire usage de votre liberté d'agir en justice autoriserait la direction de Bridgestone à introduire des mesures discriminatoires dans le plan social. Franchement, c'est insupportable d'entendre des âneries pareilles. Ça n'a ni queue ni tête. Une discrimination, c'est un délit. S'il y avait la moindre trace d'une mesure qui serait au détriment des salariés qui contestent en justice leur licenciement, évidemment que les auteurs d'une telle discrimination seraient sanctionnés sévèrement.
J'espère.
Il y a là une tentative de manipulation qui est absolument inacceptable. Et d'ailleurs, l'association a demandé à l'inspection du travail du département de prendre officiellement position sur ce point. Et l'inspection du travail a immédiatement répondu qu'il ne pouvait pas y avoir, et bien sûr qu'il ne peut pas y avoir, la moindre mesure discriminatoire dans un plan social. Donc maintenant, ça suffit de tenter de manipuler les gens, de leur faire peur, voire de les menacer, parce qu'ils veulent faire usage de leur liberté de contester cette décision inacceptable ici, à savoir fermer une usine dans un groupe qui fait 30 milliards de chiffre d'affaires et plus de 3 milliards de profits en 2019, et qui veut vous virer pour une seule et unique raison, faire davantage de bénéfices encore. Et se mettre en colère et résister face à ça, et lancer dans le cadre de la lutte que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir engager un certain nombre de démarches judiciaires, il n'y a rien de plus normal, bon Dieu. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a déclenché ce matin? Ce matin, nous avons fait assigner trois sociétés. La société Bridgestone France, la société Bridgestone Europe NV en Belgique et la société Bridgestone Corporation au Japon. Nous les avons assignés devant le tribunal judiciaire de Lille. Et qu'est-ce que nous allons demander au président du tribunal de Lille en référé? Nous allons lui demander de condamner la société belge Bridgestone Europe NV à poursuivre la production à l'intérieur de cette usine. Quelques détails sur ce point. Vous savez que la totalité des pneus que vous fabriquez ici est vendue à la société belge. C'est elle, votre unique client. Tout ce que vous fabriquez ici est acheté par elle. Et il y a un contrat qui prévoit cette relation d'achat et de vente. En fermant cette usine, le contrat de vente est rompu. Et en rompant ce contrat de vente, on prive la société Bridgestone France de la totalité de sa production, de la totalité de son activité, de la totalité de son chiffre d'affaires. Il se trouve que dans le code de commerce, il y a un article qui interdit que l'on fasse un arrêt, un stop brutal dans un contrat où une entreprise est totalement dépendante d'une autre, où une entreprise a un seul et unique client. Et lorsque ce client décide de mettre un terme aux relations commerciales, aux relations d'achat, eh bien, il ne peut pas le faire s'il n'a pas respecté un préavis. Ce préavis, peut aller jusqu'à 18 mois. Et 18 mois de production supplémentaire, c'est 18 mois d'emplois supplémentaires et de salaires supplémentaires. Et puis, éventuellement, ce blocage, qui personne n'a jamais soutenu le contraire, n'est pas indéfini. C'est pas un blocage indéfini. On ne va pas arriver par la voie judiciaire à bloquer définitivement la fermeture. Mais mettre en échec cette fermeture pendant 18 mois, ça va peser sur la stratégie de Bridgestone. La dernière fois que je suis venu ici, je vous avais cité en exemple les salariés de General Electric qui ont fait exactement ça et qui ont obtenu la suspension de la fermeture de leur usine. Moi, quand je les avais vus la première fois, ils devaient être licenciés 2 mois plus tard. C'était en novembre 2019. Aujourd'hui, ils sont encore dans leur tôle. Ils ont encore leur emploi, ils ont encore leur salaire. Alors évidemment que General Electric est revenu avec un deuxième PSE. Mais le deuxième PSE, il ne ressemble pas au premier. Déjà, dedans, il y a des mesures significativement plus élevées que ce qui était proposé au départ. Et les salariés de General Electric, ils continuent à se bagarrer pour empêcher General Electric de fermer l'usine. Et ils ont en partie réussi. Ce que vous êtes en train d'entreprendre pour Bridgestone a déjà été fait ailleurs et a déjà été couronné de succès. Ce qui serait bien, c'est que ici, pour une fois, vous obteniez le soutien de tous ceux qui se disent officiellement scandalisés par la décision de Bridgestone. Parce qu'on les a vus, les Bertrand, les Le Maire, la ministre de l'Industrie. Ça, pour faire des grandes réunions, gesticuler en disant c'est inacceptable, c'est un assassinat, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va rentrer dans des mesures concrètes. On va gêner Bridgestone, on va les gêner. Maintenant, on attend de voir qu'eux viennent aussi nous soutenir dans une démarche qui va effectivement mettre des bâtons dans les roues au groupe Bridgestone. On va voir s'ils seront au rendez-vous. Je peux déjà vous donner une date. L'audience aura lieu le 15 décembre prochain. Et il faudra évidemment que les salariés de Bridgestone soient aussi nombreux que possible. Plus on aura de salariés présents au tribunal le 15 décembre, et plus on aura de chances de convaincre le juge. Parce que on peut avoir le meilleur argumentaire juridique du monde. Dans une bataille comme celle-là, ce qui fait la différence, ce sont les salariés. Si le juge voit qu'il y a un nombre important, une partie importante des salariés de cette usine, qui est là lors de l'audience, et qui dit « nous, on veut garder notre emploi. Nous, on veut tout mettre en œuvre pour que ce groupe change de position, qu'il soit contraint de maintenir la production dans notre usine. » Croyez-moi, c'est ça qui fait la différence. Il y en a une deuxième qui est en préparation. Nous allons saisir le tribunal de commerce pour demander la désignation d'un administrateur provisoire qui serait chargé de remplacer la direction actuelle de Bridgestone France. Parce que il y a quand même quelque chose d'incroyable dans l'attitude de la direction officielle de Bridgestone France, qu'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs. Ils sont où les dirigeants de Bridgestone France? Parce que, bon, aussi fantomatique soit-il, il n'en reste pas moins qu'ils ont une responsabilité en tant que dirigeants d'une société française qui est officiellement autonome. C'est quoi leur responsabilité? C'est de faire en sorte que cette société survive. Même si elle appartient au groupe Bridgestone, c'est pas pour autant qu'elle est autorisée à se faire harakiri. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Si la production de cette usine s'arrête, qu'est-ce qui reste comme activité au sein de la société Bridgestone France? Rien. La société Bridgestone France cesse totalement ses activités si jamais votre usine elle ferme. Or, une société, elle n'a pas le droit de se faire harakiri, même si c'est pour faire plaisir au groupe qui est son propriétaire. Elle n'a pas le droit. Là encore, tous ceux qui disent que c'est insupportable, inacceptable que l'on ferme l'usine ici, que le groupe Bridgestone, après avoir encaissé des millions et des millions de deniers publics, s'assoit sur ce site comme si c'était rien, vire des centaines et des centaines de salariés comme si c'était des Kleenex. Nous, on va entreprendre avec cette action devant le tribunal de commerce une autre démarche concrète qui pourrait empêcher ce désastre de se produire. Eh bien, qu'ils viennent nous soutenir. Et on verra qui sera au rendez-vous. Tout ce que nous faisons est raisonnable. C'est le bon sens. Ceux qui s'opposent à ce que nous faisons, franchement, je ne sais pas exactement quel est leur intérêt, mais ce n'est pas l'intérêt général.
Moi, franchement, je vais vous dire, mon expérience, c'est que les salariés, on ne les enfarine pas très longtemps. Voilà. Et que, au fur et à mesure que la lutte avance, eh ben, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que ce n'est pas en pliant les chines qu'on obtient des résultats. Voilà. Et que face à une multinationale qui a décidé d'écraser ce site, de supprimer tous les emplois et de virer tout le monde, bah, il n'y a pas tellement d'alternative à la lutte, quoi, à un rapport de force. Voilà. Et un rapport de force, ça se construit aussi avec des actions en justice. Voilà, on s'appuie sur la loi. Ce n'est pas parce que c'est un groupe hyper puissant qu'il est au-dessus des règles. Il y a des règles à respecter qu'il ne respecte pas.
Comment réussir à envisager l'avenir à un peu plus long terme en termes de production et d'emploi, en fait, dans un cadre où ce sont deux sociétés du même groupe qui, visiblement, ont envie que ça se termine ici. Et donc, j'imagine bien que sur un court, moyen terme, on peut faire durer.
Quand vous êtes menacé de licenciement, quand on vous dit dans quelques mois, vous allez pointer à Pôle emploi, chaque jour de gagné sur le projet de destruction de votre travail, c'est une victoire. Voilà, chaque jour que vous gagnez avec un salaire en plus et un emploi, c'est une victoire. Bon, après, personne ici n'a perdu sa lucidité. On a un adversaire qui est puissant. On a un adversaire qui est puissant et qui ne va probablement pas renoncer à la première difficulté venue à son projet. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter son diktat comme une fatalité. C'est en résistant qu'on arrive, parfois, à modifier le cours des événements.
Et alors là, les armes sont surtout juridiques. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres armes pour un rapport de force offensif ?
Oui, enfin, vous savez, là, je trouve que ce rassemblement devant l'usine, voilà, où il y a un certain nombre de salariés de Bridgestone, c'est déjà la première manifestation concrète d'une volonté collective, frange en tout cas des salariés ici, de ne pas se laisser faire. Et c'est, voilà, c'est sur des mobilisations de cette nature que tout ce que moi je peux faire plonge ses racines, quoi. Voilà, s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas un certain nombre de salariés qui décident de se mettre en résistance et de dire non, c'est pas possible, on ne peut pas nous virer juste pour que quelques actionnaires fassent des bénéfices supplémentaires. S'il n'y a pas ça, évidemment, les actions en justice, leurs chances de succès sont extrêmement minces. Hein. Mais moi, je pense, voilà, puisque je viens ici pour la troisième fois, je pense qu'ils seront de plus en plus nombreux à ne pas accepter la stratégie de « je baisse la tête, je me laisse faire, et c'est comme ça qu'on me virera avec quelques miettes ».
Il y a une dernière question, il y a aussi, on accuse un petit peu là actuellement cette démarche de faire division en fait au sein des travailleurs, parce que ça se fait un peu à l'encontre de l'intersyndicale.
Et moi je ne parle pas de l'intersyndicale, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Nous, on a une stratégie qui n'est pas la leur, manifestement. Bon, nous, notre adversaire, c'est la direction de Bridgestone. Voilà, on a déjà suffisamment à faire avec elle.
Tu penses que ça peut être quelque chose de, comment dire, de central, un peu un point névralgique d'une lutte qui, on va dire, peine un peu à se mettre en place au vu des charrettes de licenciement quand même qui se passent actuellement?
Ouais, bien sûr, je pense, ouais. Ouais, complètement. Ça pourrait être c'est ce qu'on discutait avec le collègue, mais ça pourrait être un drapeau et...
Olivier, cheminot solidaire, venu soutenir les Bridgestone.
Une sorte de point de ralliement qui pourrait être visible justement pour... montrer la colère et la mobilisation des travailleurs du pays, ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup qui le disent, hein. Moi, je suis pas de l'usine, mais autour de moi, les collègues, beaucoup ont les yeux un peu tournés vers Bridgestone, parce que c'est emblématique de ce que font les patrons partout, hein, franchement, hein, dans tous les secteurs, dans toutes les boîtes. Et on a envie que ce soit emblématique aussi du fait que les travailleurs relèvent la tête et qu'on les fasse payer, quoi. Parce que c'est pas à nous de payer cette crise. Hein. C'est pas aux travailleurs, c'est pas à la classe ouvrière de payer la crise. Ni la crise sanitaire, ni la crise économique. Des boîtes comme Bridgestone, ils font des milliards de profits. Les actionnaires, ils sont riches à milliards. Bon, du pognon, il y en a. Hein. C'est de ce côté-là qu'il faudra aller le chercher. Hein. C'est pas aux travailleurs de payer la crise. Hein.
Et qu'est-ce que tu penses des tractations qu'il y a eu jusqu'ici autour de Bridgestone, avec bon, notamment les élus de région, Xavier Bertrand, l'idée qu'il pourrait y avoir une espèce de refinancement d'une entreprise privée pour sauver l'emploi, ce genre de...
Bah, Xavier Bertrand, c'est, il n'en est pas à sa première. Hein. À chaque fois qu'il y a une usine qui ferme dans la région, il fait son cinéma. Donc, et à chaque fois, ça finit pareil. Hein. C'est quand même un peu des promesses un peu démagogiques, quoi. En plus, il a un peu en tête la présidentielle de 2022, si j'ai bien compris, donc il faut un peu qu'il se montre. Bon, moi je pense que l'espoir, il n'est pas trop de ce côté-là. Hein. L'espoir, il est ici, avec les ouvriers à la base, s'organiser. C'est en comptant sur nos propres forces qu'on arrivera à faire changer les choses. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Tout ce qu'ont obtenu les travailleurs dans l'histoire, mais même dans les luttes récentes contre des fermetures d'usines ou sur des licenciements... Ça a été quand il y a eu des mobilisations qui s'engageaient et quand les travailleurs ils comptaient sur eux-mêmes. Hein. Moi j'ai fait grève, je suis cheminot là, j'ai fait grève deux mois cet hiver contre la réforme des retraites. C'est quand même ça qui l'a remisé au placard. Alors visiblement ils veulent la ressortir là d'après ce que j'ai compris, mais c'est grâce à la mobilisation hein, si on les avait laissés faire. Bon et puis en attendant, on fait reculer les choses et voilà, ça fait déjà au moins une année là où il y a des travailleurs qui peuvent encore bénéficier de leur retraite telle qu'ils. Voilà, sans que la réforme soit passée, quoi. Donc tout ça, ça compte. Hein.
Vous, à Cargill, l'expérience que vous pouvez partager, c'est celle avec les représentants locaux, les élus.
Alors clairement, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas croire les politiques déjà de 1.
Jean-Luc, délégué syndical CGT, salarié de Cargill à Haut-Bourdin.
Parce que moi, personnellement, j'ai rencontré monsieur le maire, qui m'a écouté bien gentiment. Et j'attends toujours ses réponses. Je suis toujours, en communication.
Ministre de l'économie.
Ouais. Je suis toujours en communication avec son cabinet il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et normalement, Bercy doit se pencher sur le problème des Cargill, ce qu'il n'a toujours pas fait. Quant à M. Bertrand, c'est pareil. J'ai rencontré deux fois à Lille. Personnellement, il avait déploré qu'on n'était pas dans une intersyndicale. Et au final, on voit qu'ici, Bridgestone, il y a une intersyndicale. Et pour autant, ça ne change rien. Il s'adapte à la personne qui est en face de lui et pour faire passer son message politique, c'est tout. Quoi. Mais il ne faut rien compter sur eux. Il faut compter, les salariés ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'est le message qu'on est venu leur donner, c'est rester soudés et faire front. Parce qu'il faut agir, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Nous, ça fait un an, Cargill-Haut-Bourdin, qu'on est en lutte. Pour l'instant, on va fêter l'anniversaire là, le 21 novembre, si on peut appeler ça un anniversaire. Mais pour l'instant, avec l'aide de notre avocat Fiodor, il n'y a aucune lettre de licenciement qui n'est encore partie. Donc ça prouve bien que ça paye. La lutte, elle paye. Mais c'est pas dans 15 ans, c'est maintenant.
Il y a un truc un peu étrange, c'est que toi, tu as le gilet CGT. Donc la CGT, ou en tout cas des militants CGT de Cargill sont venus apporter un soutien ici à Bridgestone, alors qu'on a l'impression que la CGT Bridgestone elle-même n'est pas là.
Moi je ne veux pas jeter la pierre aux camarades, hein. C'est des camarades qu'on voit régulièrement aussi, où quand on se déplace pour aller défendre les Auchan, les Pimki, les Alinéa, etc. Ils sont toujours là aussi avec nous, maintenant ils n'ont peut-être pas tous les éléments non plus. Bon, on verra le positionnement qu'ils prendront prochainement.
Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous êtes venu apporter aux camarades ?
Restez unis, et c'est ce que je leur disais. Il faut aussi protéger la personne qui a pris la tête de ce collectif. C'est important, parce qu'en face, ils auront affaire à des gens sans scrupules. Sans scrupules, et qui prendront peut-être des sanctions derrière, etc. Il faudra se protéger l'un l'autre. Comme chez nous, chez Cargill, il y a trois personnes qui ont été licenciées où on fait justement des recours en justice, qu'ils ont été licenciés, on va dire, injustement, juste parce qu'ils luttaient contre ce PSE. Et ça peut se passer ici, ça va se passer ici, comme ça se passe partout.
Et justement, vous, par rapport aux démarches juridiques que vous avez pu commencer avec Cargill, est-ce que ça a pu aboutir à quelque chose ?
Alors nous, clairement, le PSE il a été validé. Hein. Bon, maintenant, on voit que la directe et les inspections du travail, etc., sont, on va dire, à la marge du gouvernement. Le gouvernement est intervenu directement dans notre dossier. malgré tout, nous, on fait appel à Douai, et donc les jeux ne sont pas tout encore faits. Hein. Nous, on a bon espoir d'avoir gain de cause là-bas, à Douai.
Est-ce que dans ce genre de combat, il faut être prêt à s'engager pour des années ?
Ouais, c'est clair. C'est aussi le message qu'on est venu faire passer ici. Ça va durer, ça va être douloureux, ça va être très long. Hein. C'est clair que les recours, on va dire, c'est un impact hein, sur la santé hein, et des salariés. Et c'est pour ça que rester unis, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, on est aussi venu donner un message politique. Hein, c'est que depuis quelques temps, ben, la révolte, elle gronde. Et à un moment donné, ben, nos politiques, ils vont comprendre que il y a toutes ces sociétés où il y a les PSE, ils vont se regrouper et ils vont s'unir dans la lutte. Et ça va leur poser des problèmes.
Ce reportage a été réalisé devant les grilles de Bridgestone à Béthune lors de la présentation des actions que vont mener les affranchis devant le juge des référés pour contester la fermeture de leur usine. Première audience, le 15 décembre. Une après-midi qui s'est déroulée dans un climat tendu entre des salariés qui souhaitent voir le rapport de force monter en intensité et celles et ceux qui voudraient poursuivre les négociations menées par l'intersyndicale.